dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5. Aujourd'hui, après notre interruption de la semaine dernière, nous allons reprendre ce triptyque, l'œuvre de Christ. Christ était un prophète, prêchait Christ comme prophète. Il était aussi sacrificateur, et c'est ce que nous voulons regarder ce matin. Hébreux 5, et on va lire les 10 premiers versets. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Ça va très bien avec ce qu'on a lu. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les pécheurs, pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est Dieu qui a désigné Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Christ, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Afin, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est intéressant comme quoi, dernière semaine ou dernière année, on n'arrive pas à sortir de cette histoire de Melchisédek. Peut-être que c'est là qu'est le centre, le pivot de toute l'alliance. Donc Christ, le sacrificateur. Donc on a déjà vu comment le Seigneur Jésus, pour remplir sa mission de rédempteur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes que Dieu a envoyé pour accomplir la rédemption, le rachat, pour payer la rançon. Et il a été, on a vu, investi de l'office prophétique. Il faut qu'il annonce cette vérité. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, nous dit-il en lisant Luc quand il est à Nazareth. L'état d'ignorance dans lequel le péché a plongé la race humaine nécessite qu'un prophète se lève pour déclarer le salut venu de Dieu. Personne ne peut trouver le chemin vers Dieu. C'est impossible. Impossible. Il y a quelque chose dans l'être humain qui rend cela totalement impossible. Donc, il y a besoin d'un prophète. Et cette œuvre, on l'a vu, se poursuit, cette œuvre d'annonce, cette œuvre prophétique, d'annonce du salut en Christ, elle se poursuit au travers du corps mystique de l'Église, de Christ, l'Église. Et c'est pour ça que quand Christ, au moment où il va quitter cette terre, à l'ascension, dit: Allez, prêchez, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est son message dans sa puissance, dans son nom. Mais voilà le mandat. Voilà le mandat que l'Église a reçu. Pas simplement des spécialistes, mais l'Église. Et maintenant, on se tourne vers. On veut examiner un autre office qui est détenu par le Seigneur Jésus-Christ, celui de sacrificateur. Alors vous rappelez, comme quoi on a souligné que ces choses-là ne sont pas étanches. On ne peut pas avoir un office, on ne peut pas avoir une fonction du Seigneur sans avoir les autres. En fait, ce n'est pas le sacrifice qui sauve, c'est le sacrifice de Christ. Une autre manière de le dire, qui est peut-être un peu plus imagée, à Golgotha, il y avait trois croix. mais une seule sauve, et la croix sauve à cause de celui qui est sur la croix. Mais celui qui est sur la croix ne sauve que parce qu'il est sur la croix. L'un dissocié de l'autre ne sert à rien. Donc c'est la personne et l'œuvre de Christ. Premier point, regardons le sacrificateur dans l'histoire de la rédemption pour voir un petit peu ce qu'il est. Et c'est ce que nous avons lu là. Tout comme l'office prophétique, l'état de péché exige l'office sacerdotal, exige un sacrificateur. On voit ça depuis le début. Dès la création du monde, on voit une communion fertile qui existe entre l'homme et Dieu, ou entre Dieu et l'homme. Il est dit dans les images de la Genèse que Dieu venait vers le frais du soir, le moment qui est tellement bon, et il venait communier avec l'homme dans le jardin. Donc c'était là, et très fertile. Mais avec l'entrée du péché, deux choses sont intervenues. Avec l'entrée du péché dans la race, dans le monde, tout d'abord, l'incapacité pour l'homme de réparer. Ça n'est pas possible de réparer. Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrent, et effectivement, ils ont une connaissance maintenant qu'ils n'avaient pas avant, et ils se hâtent de se fabriquer des couvertures. Mais quand Dieu vient, qu'est-ce qu'on voit? Tout de suite, ils vont se cacher derrière les arbres de la forêt, les arbres du jardin. Ils vont se cacher de Dieu. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils sont coupables, oui, mais parce que la couverture qu'ils ont fabriquée ne les cache pas. Elle est inutile. Et ça, c'est important à garder à l'esprit, parce que continuellement, en chacun d'entre nous, à tout moment, même le plus grand chrétien, s'il a des grands chrétiens, il a cette tendance à coudre une ceinture, à se fabriquer une ceinture. Mais c'est impossible, incapable de réparer. La rébellion produit la séparation. Et c'est ce qui est illustré par l'expulsion du jardin d'Éden. L'homme ne peut pas rester. Et c'est parachevé par la venue de la mort. Mort qui est une illustration de la réalité de cette séparation. L'autre élément qu'on voit immédiatement, et qui nous intéresse ici, c'est que Adam ne peut plus rien faire pour lui-même, mais Dieu entre en scène. Dieu fait quelque chose pour l'homme. Il prend la place de l'homme et il s'occupe, lui, celui qui est offensé, mais qui est Dieu, à couvrir la nudité de l'homme. Et on voit, on sait que c'est en mettant des animaux à mort, des animaux que lui-même a créés, il les met à mort pour pouvoir couvrir l'homme de la peau de l'animal. Et là, bien entendu, on a l'image, la première image du sacrifice. Et c'est important, ce n'est pas quelque chose simplement que les théologiens utilisent pour essayer de nous faire comprendre un certain système. Mais par exemple, on sait que la chose est tellement importante que dans le cœur d'Abel, mélangé ou allié plutôt à la foi, ça a produit le fait que Abel offre un sacrifice meilleur que son frère. Parce que chez son frère, ça rencontre l'incrédulité et cette histoire de l'effusion de sang. Et lui, non, il préfère amener quelque chose qu'il a fabriqué lui-même, enfin, qu'il a aidé, disons, à fabriquer les produits de son jardin, de son travail. Donc, Dieu entre en scène. Et ici, nous avons tout le concept, tout le germe du concept sacerdotal, que quelqu'un doit venir accomplir l'œuvre. Il doit y avoir un médiateur, et ce médiateur doit être un sacrificateur. Quelqu'un fait quelque chose pour l'homme en rapport avec Dieu. Et cet acte implique toujours un sacrifice et l'effusion de sang. Il y a d'autres sacrifices, des sacrifices qui sont même institués par Dieu, exigés par Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a même un sacrifice, Philippe en a parlé brièvement tout à l'heure, un sacrifice qui est exigé de l'enfant de Dieu dans le Nouveau Testament, Hébreux 12 par exemple. Et c'est ce sacrifice d'une vie transformée. Mais ça, c'est un sacrifice qui est après le sacrifice, le sacrifice central. Ça implique une effusion de sang. C'est très coûteux. Mais dans l'Ancien Testament, on voit continuellement les limitations du service sacerdotal, du système des sacrifices. Et c'est ce qu'on a vu dans notre texte, là. Les sacrificateurs, ils sont pris du milieu des hommes. Ça, c'était une spécification. Et donc, ils doivent être remplacés, parce qu'ils ne sont pas éternels. Il leur faut aussi offrir des sacrifices pour eux-mêmes. Aaron ne pouvait pas prendre le sang de l'expiation et aller derrière le voile simplement comme ça. Il fallait déjà qu'il mette à mort une victime pour ses propres péchés avant. Allez, donc il y avait une limitation là. Une autre limitation au grand jour de l'expiation, ça c'est Lévitique chapitre 16. Le sacrificateur doit prendre deux boucs. Si vous lisez ce passage, c'est un passage merveilleux en fait. Il y a un bouc sur lequel il va mettre les mains, donc il y a transfert de culpabilité, en image bien sûr, et quelqu'un va emmener ce bouc dans le désert et on ne va plus jamais revoir le bouc. Ça, c'est une image du fait que le péché est ôté et la mémoire de Dieu ne peut même pas le trouver. Mais il y a un autre bouc, et ce bouc-là est mis à mort de façon violente, et son sang est amené derrière le voile, sur le propitiatoire, pour faire la paix. Pourquoi deux boucs ? Pourquoi deux boucs ? Parce que ce système était limité, et un seul bouc ne suffisait pas. Rien ni personne ne peut vraiment accomplir l'œuvre parfaitement. Là, un animal ne peut pas le faire. On va voir même qu'il y a d'autres dimensions dans cette incapacité. Mais, par exemple, dans le système d'Israël, le sacrificateur pouvait offrir le sacrifice, mais ne pouvait pas assurer la sécurité du peuple. Il fallait le roi pour cela. Mais le roi ne pouvait pas offrir de sacrifice. Donc, vous voyez, seul Christ peut faire cela. Une autre limitation de l'ancien système, c'est que chaque année, les sacrifices doivent être répétés. Alors, il y avait sacrifice matin et soir, chaque jour de la Sainte Année. Mais ici, il parle du jour des expiations, Lévitique 16. Il faut vraiment lire ce passage. Là, il y avait ce grand sacrifice. Mais chaque année, il fallait répéter ce sacrifice. Et cela indique, et c'est un point que l'auteur de la lettre aux Hébreux aborde, cela indique que l'œuvre n'est jamais achevée. Parce que si elle était achevée, si un sacrifice avait véritablement ôté le péché dans l'Ancien Testament, il n'y avait plus besoin de faire d'autres sacrifices. C'est fait. Pour reprendre une analogie, si l'équipe sportive a gagné, a fait le travail, il n'y a pas besoin de faire un autre match. Il y a certains sports qui sont un peu tordus, mais où il faut faire des... Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et un animal ne peut pas ôter le péché d'un homme. L'animal qui était mis à mort dans l'Ancien Testament n'était pas là pour ôter le péché, mais pour pointer vers celui qui ôte le péché. On l'a déjà dit, et on le redira encore, parce que c'est vraiment le centre. Et tout pointe vers Christ. C'est pour ça que celui qui est intéressé simplement dans les détails factuels de l'Ancien Testament, vous savez, il y a des gens il y a certaines dénominations même qui sont carrément adonnées aux détails du culte de l'Ancien Testament. Ces gens-là font fausse route, malheureusement. Des gens qui sont très très sincères, mais très sincèrement dans l'erreur. Non, parce que ces choses-là maintenant sont passées, mais la réalité est là, et c'est en Christ. Tout cela et beaucoup d'autres choses nous enseignent un point capital. Tout ce système sacerdotal y compris l'office du souverain sacrificateur, n'était là pas pour accomplir l'œuvre, mais ça servait de manière prophétique en fait, d'une manière d'annonce, à montrer, annoncer qu'il fallait un autre sacrificateur qui vienne. Il fallait quelqu'un de différent qui ne soit pas limité, qui vienne. Et c'est pour ça qu'on a un Nouveau Testament. Et c'est là, entre parenthèses, la grande erreur de l'esprit religieux, c'est-à-dire l'esprit qui veut fabriquer son propre salut, ou tout au moins participer à la fabrication de son salut, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. L'erreur, c'est de penser qu'il y a quelque chose qui puisse provenir des actions de l'homme qui vont servir au salut de l'homme. Rien, rien. La Bible nous dénude complètement par rapport à ça, nous vide les mains. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il nous faut nous rappeler continuellement. Continuellement. Nous ne pouvons rien faire. Donc, on a vu un peu le système sacerdotal dans l'histoire de la rédemption, dans l'Ancien Testament. Maintenant, voyons en deuxième point la supériorité de Christ comme sacrificateur. Et là, vraiment, la lettre aux Hébreux nous aide. Hein. Mais la supériorité de Christ comme sacrificateur. Et c'était très intéressant que dans le passage qui a été lu tout à l'heure, là, quand Paul parle de... Il va montrer une manière plus excellente. Bien entendu, il va parler de l'amour, qui est en fait l'amour de Dieu qui s'exprime chez son peuple. Le mot qui est utilisé là, à la fin, bien meilleur, c'est le mot hyperbole. On sait ce que c'est l'hyperbole, c'est exagération presque, hein, pour nous. La supériorité de Christ, donc. On vient de voir l'imperfection du système sacerdotal, du système sacrificiel, si on peut dire, dans l'Ancien Testament. Même le souverain sacrificateur était limité et donc imparfait. Ce sont des sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont mourir, ce sont des gens qui passent. Et de même que le code de la loi ne peut pas rendre saint ou acceptable devant Dieu, un homme pécheur, les sacrifices et les sacrificateurs ne pouvaient pas rendre pur devant Dieu. Ils permettaient tout au plus certaines choses. Mais en elles-mêmes, ces choses qui sont bonnes, c'est-à-dire elles remplissent le rôle que Dieu leur assigne, elles pointent vers celui qui doit venir, mais la chair pécheur, la chair de péché, les rend sans force, inopérantes. Et donc ce sont des choses qui ne sont là que pour révéler l'incapacité de l'homme. Et c'est ce que Paul indique en fait en parlant de la loi, c'est-à-dire de tout le système de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le salut qui doit venir de ce que l'homme fait. Fais ces choses et tu vivras. Mais c'est impossible de les faire à la perfection. Ça n'est pas possible. Donc l'incapacité totale de l'homme et le but de ces choses, c'est de l'amener à un désespoir de lui-même, désespoir de soi. Et dans la grâce bienveillante de Dieu, ces choses-là le mènent à Christ. La loi a servi de pédagogue, d'instructeur, de tuteur pour révéler ce qui est meilleur. Et donc voilà la bêtise de s'appuyer sur la loi. La loi est bonne, elle révèle ce que Dieu veut, mais il y a quelque chose de bien meilleur. Bien meilleur. Juste comme un exemple, dans l'Ancien Testament, et ça c'est simplement pour nous montrer une illustration, dans l'Ancien Testament, celui qui avait été guéri de la lèpre devait aller vers le sacrificateur pour que le sacrificateur l'examine et le prononce pur. Vous allez voir dans les... Comment s'appellent les premiers livres? Oh, ils sont tous les deux endormis, on va laisser. Dans le Pentateuque, vous allez voir cela, et en fait, le sacrificateur devait voir certaines choses, qui sont d'ailleurs assez intéressantes au niveau médical, et il prononçait le lépreux pur, ou non, hein, mais imaginons qu'il le faisait. Il pouvait prononcer que celui qui avait la lèpre était maintenant pur. Il pouvait déclarer l'homme pur, mais ne pouvait pas le guérir. Il ne pouvait pas le guérir. Mais quand Christ arrive, quand Christ paraît, il a, lui, le pouvoir de rendre pur et de guérir. Et il donne sa vertu qui guérit. Il a le pouvoir. Il est quelqu'un de totalement différent de cet autre sacrificateur. Vous voyez ? C'est la supériorité de Christ. Et c'est vraiment crucial de voir cela. Il est d'un autre ordre, comme nous allons le voir. En fait, la lettre aux Hébreux est le seul livre du Nouveau Testament qui utilise le titre « sacrificateur pour le Seigneur Jésus ». Mais par contre, elle n'arrête pas de le faire. Toute la lettre montre la signification de son office et surtout la supériorité sur les autres. Nous voyons cela selon deux facettes, son identité et son activité. Jésus-Christ est supérieur au sacrificateur de l'Ancien Testament à cause de qui il est et à cause de ce qu'il fait. Premièrement, et c'est le troisième point, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, on a déjà beaucoup parlé là-dessus, on ne va peut-être pas aller dans tous les détails. On a peut-être même des enregistrements, des choses. On a déjà parlé de ça. Et le fait qu'il est sacrificateur selon un autre ordre que celui d'Aaron. Il y a des gens qui disent, mais ça c'est un peu compliqué, tout ce que je veux c'est simplement suivre Jésus. Vous savez, aujourd'hui on est un peu dans le refus de creuser. Je veux simplement suivre Jésus. Mais Jésus n'est personne sinon qu'il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas n'importe qui, il a une identité propre. Et c'est ce Jésus-là qu'il faut croire. Aujourd'hui, on tourne le mot Jésus simplement dans une incantation magique. Non, non, ça c'est faux. En quoi est-ce que cet ordre de Melchisédek est important? On l'a vu, je vais simplement aborder la chose rapidement. C'est que Melchisédek est une figure qui montre que celui qui est selon l'ordre Melchisédek est quelqu'un qui vient de Dieu. Quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le monde. On l'a vu l'autre jour dans ce message qu'on a écouté là du frère Carson, mais le fait qu'il n'avait ni père ni mère. Alors, bien sûr, il avait un père, une mère, le vrai Melchisédek. Mais dans la révélation, dans ce que Dieu a dit, il ne mentionne pas sa généalogie. Alors que la plupart des gens importants, tous les gens importants dans l'Ancien Testament, dans la Bible, leur généalogie est mentionnée. Zacharie, fils d'Ido, et ainsi de suite, vous voyez. Il y a toujours Melchisédek, pas de père, pas de mère, important. Ça veut dire qu'en fait, pour la révélation de Dieu, il vient de Dieu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas d'où il vient. Ce qui parle, en termes bibliques, de quelqu'un qui est éternel. Alors, le vrai Melchisédek n'était pas éternel, bien entendu, non. Mais c'est une image. Et celui qui vient selon l'ordre de Melchisédek, c'est celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour, celui qui est éternel. Et bien entendu, il faut qu'il soit Dieu pour cela. Et c'est ce que nous trouvons dans l'Emmanuel qui vient, Dieu avec nous, vous voyez. C'est cela. Et en fait, il y a aussi la chose, on le verra peut-être plus la prochaine fois, que ce Melchisédek était à la fois sacrificateur du Dieu très haut et roi de justice, et roi de paix, roi de Salem. Mais bon, on a vu ces choses-là au cours des derniers mois et on va les laisser un peu de côté. Mais Dieu fait exactement cela en Christ. Il fait quelque chose de nouveau. Et ça, c'est l'annonce continuelle de l'Ancien Testament. Il y a certaines choses qui se passent, il y a certaines réalités, mais Dieu va faire une chose nouvelle. Et c'est intéressant, chaque fois, ça vaut le coup de rechercher cette trajectoire, comme on dit dans l'Ancien Testament. Continuellement, quand il est mentionné que Dieu va faire une chose nouvelle, il y a une association avec la femme, toujours. Toujours. Des fois, c'est assez caché dans les versions qu'on a, parce que les traductions sont difficiles. Mais par exemple, Ésaïe parle de Dieu qui fait une chose nouvelle. La femme va entourer l'homme. Bon, ça, c'est une image merveilleuse dans l'ancien temps de la grossesse, n'est-ce pas? Et de la naissance virginale. Enfin, Dieu fait quelque chose de nouveau en Christ. Christ vient, il n'a pas de père ni de mère, en quelque sorte. C'est l'œuvre de Dieu. Et il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Tout sacrificateur est pris du milieu des hommes, nous avons lu. Eh bien, Christ paraît en tant que vrai homme. Et c'était nécessaire. Il est donc important de garder à l'esprit cette humanité du Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement un aspect théologique, c'est vraiment important. Il partage et comprend toutes les conditions humaines. Et ça, c'est une exigence du sacerdoce. Regardez le verset 12 du chapitre 5 d'Hébreux. Est-ce que j'ai une bonne référence là ? Verset 2, pardon. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, ça c'est nous. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Alors, ici, quand on parle de Christ, on ne parle pas d'une faiblesse, comme dans le sens d'Aaron, mais dans le fait d'une limitation. Il y a des choses que Christ, en tant que Christ, ne savait pas. Mais en tant que Fils de Dieu, bien sûr, il savait. Et c'est ce que nous voyons dans les évangiles, le fait que Christ est un véritable homme. Par exemple, il aime le jeune homme riche. Il ne peut pas aimer avec l'amour de Dieu, parce que cet homme-là, il se détourne de la voie. Mais il l'aime comme un homme, vous voyez. Et il a la capacité de choisir. Par exemple, il décide de ne pas transformer les pierres en pain quand il est tenté. Ça, c'est un homme qui peut faire ça. Il décide, il a la capacité de choisir. Il est doué d'une intelligence et d'une croissance de vie. Par exemple, il apprend, nous avons lu dans notre passage, qu'il apprend l'obéissance. Ça, c'est un passage, peut-être qu'il faudra qu'on le développe un jour. Ça, un peu, ça nous pose des tas d'interrogations, n'est-ce pas? Il a, bien qu'étant fils, le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées. Il est donc vraiment humain et comme doit être un sacrificateur. Mais il n'est pas de l'ordre d'Aaron, qui devait d'abord expier pour lui-même. Christ est parfaitement humain, né de la Vierge Marie, né sous la loi, mais il est aussi Dieu. Et donc on a les deux aspects là. Et en plus de dire qu'il est Dieu, cela signifie que le péché n'a pas pu être transmis. C'est une chose nouvelle. Il est une personne nouvelle, une nouvelle humanité. Il n'est donc pas à l'image d'Aaron dont le sacerdoce ne fonctionnait pas. Mais lui, il a un sacerdoce qui dure à toujours et qui n'est pas entaché par le péché. Son sacerdoce n'a donc pas de fin. Il n'a donc pas de fin. Et c'est pour cela aussi qu'il est important que Melchisédek était le roi. Christ est le roi. On va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Il n'a pas besoin, son sacrifice n'a pas besoin d'être remplacé. Il a une vertu éternelle. Christ est à la fois pleinement homme, pleinement Dieu. Et ceci lui permet d'être sacrificateur, car il connaît la vie humaine, la nature humaine. Cela lui donne aussi cet autre sacerdoce qui accomplit véritablement l'œuvre, parce qu'il est Dieu. Aussi, ainsi donc, qui est Jésus, son identité est importante et c'est inhérent à son office. Vous voyez, celui qui dit « Oh, moi je veux simplement suivre Jésus », en fait c'est une contradiction dans les termes. Parce qu'il faut qu'il soit ce Jésus-là pour vraiment sauver. Ce Jésus qui vient et qui n'est pas du monde. Il y a d'autres personnes, vous avez certainement entendu ça, si vous parlez, certains dans notre époque pluraliste, quelqu'un va nous dire, oui, je suis content pour toi, Jésus est ton sauveur, c'est bien, mais il n'est pas mon sauveur. Oui, on a cette attitude aujourd'hui, hein. C'est l'individualisme. Je suis content qu'il soit ton sauveur, mais il n'est pas pour moi. Mais ça, c'est une aberration. Parce qu'il est le seul sauveur. Qu'on le prenne ou qu'on ne le prenne pas. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Qu'on le reçoive ou qu'on ne le reçoive pas. Il est le sauveur. C'est comme quelqu'un qui va nous dire, mais je ne crois pas dans cette chose-là, que cette chose-là soit la vérité. Mais ça ne change pas le fait que la chose est la vérité, si elle est la vérité. Quelque chose ne devient pas vérité parce que je l'accepte comme vérité. Vous voyez ? Donc, l'essence de Christ, son identité, est cruciale pour l'œuvre qu'il accomplit. Et c'est important à garder cet équilibre biblique, dans le sens que le divin ne se transforme pas en humain. Et l'humain n'est pas transcendé en divin. Ça, c'est aussi une erreur que le gnosticisme avait encouragée et qui revient aujourd'hui. Il est fils de Dieu, mais aussi fils de Marie. Et les deux choses, toujours associées, ne sont jamais mélangées, jamais confondues. Non, Christ possède deux natures, mais il n'est qu'une seule personne. Qu'une seule personne. Ça, c'est très, très important. Garder à l'esprit. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il faut lire le livre « Fils de Marie, fils de Dieu ».« Fils de Dieu, fils de Marie », je ne sais plus. Non. « Fils de Marie », c'est ça ? D'accord, oui, oui. Ah oui, d'accord. Mais il faut le lire parce que c'est très intéressant comment l'auteur arrive à montrer toutes ces facettes qui sont multiples. Donc, l'identité de Christ, il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Chose importante. Maintenant, il est aussi le sacrificateur d'une meilleure alliance. Allons dans Hébreux 8. Commençons au verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, là, il résume, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme serviteur du sanctuaire et du véritable tabernacle, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes, des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il construisit le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, ce sacrificateur nouveau a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, maison de Juda, une alliance nouvelle. » Une alliance nouvelle. Il est le sacrificateur d'une meilleure alliance, d'une alliance nouvelle. Donc la supériorité de Christ se voit dans son identité, mais aussi dans son activité, ce qu'il fait, son sacerdoce. Tout sacrificateur n'a de valeur qu'en ce qu'il a quelque chose à offrir. C'est ce qu'on a vu. Et dans l'Ancien Testament, le sacrificateur offrait un animal. Alors, ça n'était pas vain, puisque Dieu avait demandé que ça soit fait. Mais cela permettait à l'homme qui avait fauté de revenir dans la jouissance des privilèges de la communauté de l'Alliance, c'est-à-dire l'Israël de l'Ancien Testament, la nation d'Israël. L'homme, en quelque sorte, était sorti, le pécheur, et, par son péché, était sorti des bénéfices de cette alliance qui était faite avec Israël. Et le sacrifice de l'animal permettait qu'il soit ramené dans les bénéfices de cette alliance, les privilèges. Il était de nouveau membre de l'alliance d'Israël, en quelque sorte. Vous voyez ? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il y avait une image de paix jusqu'à la prochaine fois. Et la prochaine faute, il fallait amener un autre sacrifice, une autre victime. Et cette répétition montrait que ces sacrifices n'ôtaient pas vraiment le péché, mais étaient une image qui pointait vers celui qui le ferait. C'est continuellement cette chose-là. Et Christ vient et il a quelque chose à offrir, lui aussi. Il est sacrificateur, mais non seulement il a un sacrifice, un sacerdoce éternel, mais il a aussi le sacrifice qui a une portée totale, c'est-à-dire qui accomplit l'œuvre. Il s'offre lui-même. Il n'y a pas besoin d'autres sacrifices. Parce que maintenant, c'est la mort d'un homme pour le péché d'un homme. Et c'est précisément ce qui troublait les chrétiens d'origine juive. Vous voyez, ils étaient là, ils avaient cru sincèrement et vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient sortis du judaïsme. Et le problème, c'est que dans leur tête, dans leur petite tête, comme on dira, mais on est un peu comme eux, un peu beaucoup, ils pensaient que cette coquille vide du judaïsme allait disparaître. En fait, elle est encore là, bien dénaturée, mais elle est encore là. La coquille vide du catholicisme est encore là. Alors qu'on pourrait penser, après 500 ans, franchement, ça aurait dû périr. Et c'est un problème parce que les Juifs avaient encore le temple, les Juifs avaient encore le souverain sacrificateur, tout ça. Et eux, qui avaient un sacrificateur, souverain sacrificateur bien meilleur, mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Ils ne voyaient plus. Alors ça les troublait. Ça les troublait. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir voir, n'est-ce pas ? Christ a fait l'œuvre, puis il est passé de l'autre côté du voile, où il fait valoir la vertu du sacrifice de soi-même. Et l'absence du sacrifice physique, du sacrificateur, l'absence physique du sacrificateur, troublait les chrétiens juifs, mais en fait, son absence aurait dû les rassurer, les réconforter, parce qu'il n'est pas ici, mais il est là où ça compte. Vous voyez ? Il a quelque chose à faire valoir, il va le faire valoir là où ça compte. Les souverains sacrificateurs à Jérusalem, ils allaient là, ils avaient recousu leur voile et tout ça, mais il n'y avait plus de paix. Leur maison était laissée désolée, vide, n'est-ce pas ? Et donc, ça aurait dû les rassurer. Il est là où ça compte. Si je ne tiens pas avec fermeté à la foi, à l'œuvre du souverain sacrificateur, je ne peux pas venir avec assurance. Vous voyez, comme tout se tient là, en fait. Ce n'est pas que maintenant, le Seigneur a expié pour mon péché, maintenant je vis. Non, c'est toujours lié et absolument dépendant totalement par la foi de ce qu'il a fait et de qui il est. Parce qu'il est là où ça compte et il présente ce qui compte. Et donc, je peux m'approcher avec assurance. Sachant qu'il y a un intercesseur, il y a un avocat auprès du Père, c'est-à-dire celui qui défend, avec ce mot qui est tellement difficile à traduire, ce consolateur, ce paraclet qui défend, n'est-ce pas ? Donc, Christ est là où ça compte. Application, enfin. L'office du sacrificateur que dit Christ est d'une grande puissance pour nous aujourd'hui, si nous sommes croyants. C'est la seule base pour mon assurance personnelle. La seule base. C'est aussi le seul message qui peut parler au monde. Que voyons-nous aujourd'hui? L'homme est aliéné avec lui-même. Et en fait, il ne le voit même pas. Il le ressent, mais il ne le voit même pas. Il ne sait pas où il va. Il veut se persuader qu'il est autre que ce qu'il est vraiment. Toutes ces publicités qu'on voit qui essayent de nous présenter différemment. Les messages modernes lui conseillent de faire ce qui lui plaît. Ce n'est même pas la peine. Il faut manger, boire, se réjouir, parce que demain on meurt. Donc fais ce qui te plaît. Sois toi-même, affirme-toi, affiche-toi, n'est-ce pas? Et de ne pas tenir compte des choses démodées au sujet de Dieu. Et aujourd'hui, on est vraiment passé dans l'art, dans notre société moderne, soi-disant moderne, on est vraiment passé dans l'art d'évacuer Dieu de toute la société. On ne parle même plus de lui. Mais il y a quelque chose qui est écrit dans la conscience de l'homme, qui lui interdit de vraiment croire que Dieu ne tient pas compte du péché. Quoi qu'il cherche à se persuader que le péché ne compte pas, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme, dans notre cœur, quelque chose qu'on ne peut pas effacer, qui nous assure, qui nous empêche de vraiment croire que Dieu ne tient pas compte du péché. C'est pour ça qu'on pêche. On va commettre le mal dans les ténèbres, ou on va commettre le mal en cachette, n'est-ce pas? Et c'est là. Ainsi, tous les messages qui se centrent sur l'homme, ces messages du monde, ces capacités, en fait, ces messages n'ont vraiment rien à dire. Même si dans la rébellion innée du cœur, on décide de se laisser illusionné. Je marche dans la rue, je suis là, je suis un homme du monde, tout classique et tout ça, et bien que je sache des choses à l'intérieur, je vais décider de vivre comme si elles n'étaient pas vraies. Et je sais qu'elles sont vraies. Et c'est pour ça qu'il y a tant de tensions dans l'être humain, tant de mal. Et en fait, il y a des gens qui ont fait des liens avec les maladies psychiques, les maladies même physiques, avec l'état de péché dans lequel on est. Il y a une brisure dans l'être humain. Et donc, c'est ça. L'homme naturel va se décider de se laisser illusionner par les mensonges. Mais il sait. Il sait, en fait, que Dieu est un Dieu juste. Et que tout ce qui n'est pas juste encourt sa colère. Il ne va jamais le dire comme ça, bien entendu. Mais il le sait. Mais la Bible vient, et c'est important, elle déclare ce qu'il sait déjà dans son fort intérieur. Et c'est ainsi que l'Esprit, selon le calendrier de Dieu, va toucher dans sa conviction le cœur profond. La chute dans le péché rend l'homme totalement incapable de vivre comme il le doit. Donc il y a toujours cette culpabilité qui est là, culpabilité de sentiment, de ressenti. Et si vous vous focalisez sur ce qu'il faut qu'il fasse pour redresser la situation, alors, en fait, vous l'enfoncez encore plus. Même à titre personnel, on va tomber dans une faute et on se sent vraiment sale et tout ça. Et on décide, maintenant je vais faire des efforts, je vais veiller plus sérieusement sur moi-même. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va exacerber le problème, exacerber la culpabilité, et comme on est incapable de ne pas commettre, en fait, on va descendre, et il va y avoir plus de culpabilité. Vous voyez, c'est cela. Mais face à cette incapacité totale, face à l'inimitié qui est gravée dans le cœur, Dieu a fait quelque chose. Et ce quelque chose ne tient pas compte de ce qu'il y a dans l'homme. L'homme n'est pas acteur dans le salut de Dieu. Pas du tout. Ça, c'est l'erreur de la religion soi-disant moderne. Non. Dieu a fait quelque chose et Dieu n'est pas acteur. Dans l'ancienne alliance, l'homme n'est pas acteur. Dans l'ancienne alliance, l'homme devait être acteur. C'est pour ça que cette alliance ne pouvait pas marcher. Fais ces choses et tu vivras. Et effectivement, celui qui fait ces choses est sauvé et vit éternellement. La preuve, c'est que Christ a fait ces choses et a gagné un salut éternel. Mais l'homme, dans son péché, est incapable de faire cela. Incapable. Et donc Dieu fait cette chose nouvelle. Il va utiliser des instruments humains. On a parlé de qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui servent Dieu, qui vont proclamer la bonne nouvelle. Mais en fait, Dieu fait une œuvre qui ne tient pas, qui ne prend pas l'homme en compte en tant qu'acteur. Pas du tout. Et donc, pour nous, c'est important de voir que ce sacerdoce de Christ, le fait que Christ est le souverain sacrificateur d'un nouvel ordre, qui ne tient pas compte de ce que l'homme peut faire, mais qui est fait par un homme, alors cet office de Christ est absolument crucial pour mon assurance personnelle. Comment est-ce que je me tiens devant Dieu? Parce que je suis un bon chrétien? Là, je suis disqualifié rapidement, très rapidement même. Et vous aussi? Absolument pas, non? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait tous les efforts et tout? Bien sûr qu'on ne fait pas tous les efforts. On cherche à les faire, on voudrait les faire, on ne fait pas. On n'est pas ce qu'on devrait être. Mais par la grâce de Dieu, on n'est pas ce qu'on était si on est croyant. Et par la grâce de Dieu, on n'est pas ce qu'on sera. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu regarde pour le salut de son peuple, c'est qui est ce sacrificateur et qu'est-ce qu'il a fait. Et il n'a rien pris de l'homme. Rien pris de l'homme. C'est pour cela donc que ce sacrificateur d'un nouvel ordre est si important pour moi. C'est la seule chose sur laquelle je peux me baser. Et donc, quand je suis face à cette incapacité qui encore réside en moi, même sauvé, si je fais face à ça, quelle est vraiment la délivrance? C'est de regarder à Christ. En moi, je ne vois que ce qui peut damner, que ce qui peut, en fait, encourir à la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Et donc, c'est en Christ. La vie que je vis dans la chair, dit Paul, ce n'est plus moi. Elle parle en tant que chrétien. Ce n'est plus moi qui la vis. Mais c'est la vie de Christ. Et en conséquence de tout ce que l'Esprit fait en moi, tout ce que l'Esprit fait en moi se fonde sur ce que Christ a fait pour moi. Et donc, si je vis la vie qui plaît à Dieu, ce n'est pas ça qui sauve, ce n'est pas ça qui me gagne des points. Ça, c'est l'illusion humaine. Non, je fais cela parce que Christ a ouvert la porte, parce que Christ a déchiré ce voile, a ouvert la voie. Et maintenant, je suis libre de servir Christ. La moralité ne peut pas sauver. Elle ne peut même pas améliorer le cœur, du tout. Le meilleur antidote à ce faux évangile prêché et vécu, c'est de saisir dans son intelligence et dans son cœur que mon acceptation devant Dieu, à tout moment, en tout temps, se situe en réalité en dehors de moi. En dehors de moi. On a l'image, qui est une fausse image en quelque sorte, mais qui porte une bonne signification. Le croyant, quand il sera à rendre des comptes devant le Seigneur, il n'essaiera pas de faire valoir tout ce qu'il a vécu en tant que bon chrétien, mais la valeur de ce que Christ a fait. Et c'est ainsi qu'il y a la paix, parce que Christ obtient la paix. Mes amis, si je ne crois pas cela, si je ne vis pas cela, si je n'annonce pas cela, alors mon message, ma foi, n'ont rien à voir avec l'évangile du salut. Rien. Ça peut être très religieux, ça peut être très chrétien, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Et donc, il est temps pour nous de revenir et de revenir continuellement à la richesse de Christ. En tant que prophète, il déclare la vérité. En tant que sacrificateur, il offre la victime efficace qui procure la paix. Et c'est fait. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Le grand souverain sacrificateur intercède pour tous les siens avec efficacité. Pourquoi ? Il a le sacrifice qui procure la paix. N'est-ce pas ? Et donc, dans la vie difficile aujourd'hui, avec toutes ces choses qui alourdissent, ces choses qui troublent, la vie est cruelle, nous avons cette ancre, en traduisant un cantique, je ne sais pas s'il existe en français, cette ancre qui est ferme et assurée, dont l'attache est de l'autre côté du voile, n'est-ce pas ? Un solide attachement qui ne peut pas être rompu. Et donc, le croyant qui se fonde sur Christ, dans son vécu, continuellement, qui revient à Christ, il a cet appui, cette assurance, même dans ces situations pénibles et difficiles de la vie. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre ces choses. Amen.